Bonjour à tous. Ce matin, on continue avec notre étude du livre des Actes. Et on arrive au chapitre 13, qui concerne le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas. Alors, je vais lire une partie du chapitre. On va commencer par les 14 premiers versets, puis ensuite je reprendrai à partir du verset 36. Il y avait alors, dans l'église d'Antioche, des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le gouverneur, et Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit: mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Seleucie, où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les secondait. Ils traversèrent toute l'île et arrivèrent à Paphos. Ils trouvèrent là un magicien juif nommé Bar-Jésus, qui se faisait passer pour un prophète. Il faisait partie de l'entourage du proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci invita Barnabas et Saul et leur exprima son désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ainsi qu'on traduit son nom, s'opposait à eux. Il cherchait à détourner le proconsul de la foi. Alors Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui en le regardant droit dans les yeux. « Charlatan, plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui sont droits ? Mais maintenant, attention, la main du Seigneur va te frapper, tu vas devenir aveugle, et pendant un certain temps tu ne verras plus la lumière du soleil. » Au même instant, les yeux d'Élymas s'obscurcirent. Il se trouva plongé dans une nuit noire, se tournait de tous côtés, cherchant quelqu'un pour le guider par la main. Quand le proconsul vit ce qui venait de se passer, il crut, car il avait été vivement impressionné par l'enseignement qui lui avait été donné au sujet du Seigneur. Paul et ses compagnons reprirent la mer à Paphos et arrivèrent à Perge, en Pamphylie. Là, Jean-Marc les abandonna et retourna à Jérusalem. Quant à eux, ils quittèrent Perge et continuèrent leur route jusqu'à Antioche, en Pisidie. Là, ils se rendirent à la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Donc là, le texte continue en expliquant comment Paul et Barnabas vont parler dans cette synagogue et vont repartir de comme Étienne l'a fait en son temps. Donc il va repartir de l'histoire d'Israël et en arrivant jusqu'à David. Et je reprends donc au verset 36. Donc Paul continue à parler à ceux qui sont dans cette synagogue et dit « David, après avoir eu en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, est mort et a été enterré aux côtés de ses ancêtres. Il a donc connu la décomposition. Mais celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Sachez-le donc, mes frères, c'est grâce à lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui que tout homme qui croit est acquitté de toutes les fautes dont vous ne pouviez être acquitté par la loi de Moïse. Veillez donc à ce qu'il n'arrive pas ce qu'ont dit les prophètes. Regardez, homme plein de mépris, soyez dans l'étonnement et disparaissez. En effet, je vais accomplir une œuvre en votre temps, une œuvre que vous ne croiriez pas si quelqu'un venait vous l'annoncer. » À la sortie de la synagogue, on leur demanda de reparler du même sujet le sabbat suivant. Quand l'assemblée se fut dispersée, beaucoup de juifs et de païens convertis au judaïsme suivirent Paul et Barnabas. Ceux-ci s'entretenaient avec eux et les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole du Seigneur. En voyant tant de monde, les juifs furent remplis de jalousie et se mirent à contredire Paul et à l'injurier. Paul et Barnabas leur déclarèrent alors avec une pleine assurance: c'est à vous en premier que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la refusez et que vous-même ne vous jugez pas digne d'avoir part à la vie éternelle, nous nous tournons vers ceux qui ne sont pas juifs. Car le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit: « Je t'ai établi pour que tu sois la lumière des nations, et pour que tu portes le salut jusqu'au bout du monde. » Quand les non-juifs les entendirent parler ainsi, ils furent remplis de joie et se mirent à louer Dieu pour sa parole, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans toute la contrée avoisinante, mais les juifs excitèrent les femmes dévotes de la haute société qui s'étaient attachées au judaïsme, ainsi que les notables de la ville. Ils provoquèrent ainsi une persécution contre Paul et Barnabas et les expulsèrent du territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium. Les nouveaux disciples, cependant, étaient remplis de joie et de l'Esprit-Saint. José, est-ce que tu peux montrer la carte qui nous montre le déroulement de ce premier voyage missionnaire? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le trajet. Donc, on voit à droite, là-bas, Antioche. Donc, il y a deux Antioches, en fait. Hein. Un Antioche qui est en Pisidie. Et une autre Antioche qui se situe au-dessus de la Syrie. Donc Antioche, c'était la troisième ville à cette époque-là de l'Empire romain. Et le texte donc commence à cet endroit-là où l'Église est une église importante. Alors donc on voit le départ d'Antioche jusqu'à Chypre, Salamine, Paphos, et ensuite le départ vers la Pamphylie et Antioche de Pisidie. Le voyage de retour concernera donc le chapitre suivant. Ce passage nous parle de trois personnes qui sont donc qui partent pour ce voyage missionnaire. Et ça me paraissait intéressant de revoir un petit peu leur parcours. Donc ce passage donc nous parle de Paul, de Barnabas et de Jean-Marc. Je vais commencer avec Paul sans faire tout l'historique, mais je vais lire quelques versets, donc en commençant dans Acte 9 et au verset 17. Donc c'est le moment où Paul persécutait l'Église. Sur le chemin de Damas, le Seigneur va lui parler. Il va être aveugle pendant un certain temps. On va le conduire jusqu'à Damas. Là, il va rencontrer Ananias. Le Seigneur dit à Ananias d'aller voir Paul. Donc Ananias partit donc et arrivé à la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul. Il vit de nouveau, il se leva, fut baptisé. Puis il mangea et reprit des forces. Paul passa quelques jours parmi les disciples de Damas et dans les synagogues. Il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Alors je continue un peu plus loin, verset 22. Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi, et les Juifs qui habitaient Damas ne savaient plus que dire, car il leur démontrait que Jésus était le Messie. Donc ensuite, Paul est chassé de Damas, et il arrive à Jérusalem. Verset 26. À son arrivée à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment devenu disciple. Barnabas le prit avec lui, le conduisit auprès des apôtres, et leur raconta comment, sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait parlé, et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Donc là, il est à Jérusalem. Donc, dès lors, il se joignit à eux, allant et venant avec eux à Jérusalem et parlant ouvertement au nom du Seigneur. Là encore, Paul va être chassé de Jérusalem à cause de son témoignage, et il repart pour Tarse, d'accord, puisque c'était là sa ville d'origine. Maintenant, je reprends avec Barnabas. Barnabas, donc les Actes nous en parlent aussi, et la première fois dont où Barnabas est mentionné, ça se trouve dans Actes au chapitre 4, au verset 34. Donc là, il est parlé du début de l'Église, du tout début. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un champ. C'était un Lévite, originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas. ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta l'argent et remit le produit aux apôtres. Première fois que Barnabas est mentionné. Barnabas, l'homme qui encourage. On le retrouve donc au moment où Paul arrive à Jérusalem, et c'est donc Barnabas qui introduit Paul, aux apôtres. On le retrouve encore un peu plus tard au chapitre 11, donc au verset 19. Donc là, ça se trouve après que Pierre ait reçu donc chez Corneille ait reçu le message que l'évangile était ouvert aux Juifs. Et donc au verset 18, donc Pierre explique tout ça aux apôtres à Jérusalem. Et donc le texte nous dit, ce récit les apaisa, ils louèrent Dieu et dirent, Dieu a donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. Verset 19, donc les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Toutefois, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs, en leur annonçant la bonne nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bientôt, l'Église de Jérusalem apprit la nouvelle. Elle envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli et il en fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. Un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Saul. Et quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Donc on voit que Paul et Barnabas ont une histoire ensemble. On apprend à connaître donc ce Barnabas qui nous est présenté comme un homme qui encourage, un homme bienveillant. C'est lui qui accueille Saul. C'est lui qui va le chercher pour qu'il puisse participer à l'enseignement dans cette église d'Antioche, qui est donc un endroit où les non-juifs et les juifs sont mélangés et où donc d'où ce voyage, ce premier voyage missionnaire va partir. Marc. Alors Marc, c'est le Marc qui va ensuite rédiger l'évangile de Marc. Et lui, on en entend parler pour la première fois, donc un petit peu après, au chapitre 12. Donc qu'on a étudié la semaine dernière avec Daniel. Donc vous rappelez, Pierre était en prison, un ange vient le délivrer, et Pierre va donc à Jérusalem, va aller voir les chrétiens. Au verset 12, on lit. Après réflexion, donc Pierre, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc, et un grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Donc cette Marie, une personne importante dans l'église de Jérusalem, puisque c'est là que les disciples persécutés allaient prier. Et donc la mère de ce Marc, on va retrouver après. On apprend aussi d'ailleurs que c'est la tante de Barnabas, alors c'est pas dit dans ce passage-là, mais dans d'autres passages, c'est la tante de Barnabas, donc Marc et son cousin. Au verset 24, donc du chapitre 12, alors j'ai pas lu le, à la fin du verset 11, on apprend en fait donc que l'église d'Antioche a appris qu'il y allait avoir une famine dans la région de Jérusalem, et donc l'église d'Antioche a envoyé Saul et Barnabas apporter leur secours à l'église de Jérusalem. Et donc Paul et Barnabas sont à cet endroit-là. Et donc on lit au verset 24 du chapitre 12, « La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Barnabas et Saul, après avoir rempli leur mission en faveur des croyants de Jérusalem, partirent en emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. » Donc Ça, c'est ce qui s'est passé donc juste avant ce voyage, ce premier voyage. Saul et Barnabas, donc tous les deux, sont revenus à l'église d'Antioche en emmenant avec eux Marc. On a vu aussi que donc pour l'église, le contexte de l'église, c'est un tournant qui est en train d'être pris, où l'évangile qui était annoncé d'abord aux Juifs, eh bien, s'ouvre vers les non-Juifs. On verra au chapitre suivant les problèmes que ça a posé, mais c'est ce contexte d'un évangile qui dépasse le cadre d'Israël et qui se propage et qui commence à toucher des gens de tout milieu et de tous horizons. Et effectivement, les premiers versets qu'on a lus dans notre chapitre 13, il nous est parlé donc de cette église d'Antioche où des gens qui s'appellent Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, Manaen, qui était élevé avec Hérode, et Saul. Des gens qui viennent de différents milieux, des gens qui appartiennent à la haute société, comme ce Manaen, de différentes couleurs, manifestement ce Siméon, je ne sais pas si c'était un Africain ou pas, mais en tout cas, il avait une couleur manifestement différente de celle des autres. Des gens donc qui viennent d'un milieu juif, d'un milieu grec, et qui se retrouvent, et le texte nous dit qu'il prie. Il prie, et l'Esprit de Dieu va agir. Moi, ce qui m'a marqué, et le fil conducteur, je pense, dans tout ce passage, c'est l'action de l'Esprit. Et comment l'Esprit va agir à la fois dans le cœur des disciples, comment il va agir dans le cœur de ceux qui reçoivent le message que Jésus leur donne d'apporter, et comment il construit, comment l'Esprit de Dieu construit l'Église. Donc des hommes différents reçoivent l'envoi, reçoivent le message que l'Esprit met dans leur cœur. C'est intéressant de voir la façon dont ça se déroule. L'Esprit le met dans leur cœur de mettre à part Barnabas et Saul. Et l'Église va s'associer à cet envoi. Le texte nous dit qu'il leur impose les mains. L'imposition des mains, on sait que c'est d'abord un signe d'association. On reconnaît qu'on fait partie du même corps, qu'on participe à la même mission. L'Église va s'associer et le texte nous dit va les laisser partir. Et le texte continue en nous disant et l'Esprit envoie Saul et Barnabas. C'est l'Esprit qui envoie et c'est l'Église qui s'associe et qui laisse partir. Je pense que ça peut aussi nous enseigner sur notre propre façon de vivre dans l'Église. L'Esprit parle à ceux qui prient, il les convainc, il met dans leur cœur le désir d'annoncer, de parler, d'aller, et l'Église s'associe à cet envoi. Une chose intéressante à remarquer aussi, c'est que le texte nous dit donc que l'Esprit les envoie. Le texte ne nous dit pas vers où il les envoie. Par contre, donc on voit que Barnabas et Saul partent pour Chypre. On a lu que Barnabas, il est originaire de Chypre. Barnabas va aller, poussé par l'Esprit, vers l'endroit qu'il connaît bien, On a lu que des chrétiens étaient déjà, c'était déjà arrivé déjà de Chypre. Barnabas va aller vers un endroit qu'il connaît avec, on peut dire, avec pragmatisme. Et ça nous montre aussi comment l'esprit peut fonctionner pour nous, sans forcément nous donner tous les détails, en nous laissant aussi la responsabilité de choisir la direction en fonction de ce qu'on connaît ou de ce qu'on peut faire au moment où on prend la décision. Et on verra évidemment ensuite comment l'esprit va parfois dire, par exemple, à Paul, « Non, ne va pas là-bas, mais va plutôt par là. » Mais le reste du temps, c'est le désir d'annoncer la parole qui va les porter, et ils vont faire les choix qui les amènent là où ça leur semble le mieux. Donc première direction, Chypre. À Chypre, ils vont rencontrer donc un premier obstacle dans l'annonce de l'Évangile. Ils vont rencontrer donc un magicien. Alors un premier obstacle et aussi peut-être une première opportunité. Le texte nous parle donc de ces deux personnes, donc Elymas, le magicien, et de Sergius Paulus, un homme intelligent, proconsul de la région, donc quelqu'un d'important. Il le rencontre probablement parce que ce Paulus doit faire partie des craignants Dieu, de ceux qui se sont approchés de la religion juive à la recherche de réponses à leurs questions. Et probablement que Paul et Barnabas le rencontrent à travers ce cadre-là. Et on voit donc cet Elymas qui se met en travers de leur chemin, qui essaie d'empêcher le consul d'écouter ce que Saul et Barnabas ont à lui dire. Et on va voir Dieu qui agit directement. On peut effectivement, c'est une époque dans la vie de l'Église où Dieu châtie ceux qui se mettent en travers de l'annonce de l'Évangile. On a vu ça avec Ananias et Saphira. On a vu ça avec au chapitre précédent avec Hérode, qui meurt, le texte nous dit, dévoré par les vers, après s'être mis au même niveau que Dieu. Et là, on voit donc Dieu qui intervient, qui châtie finalement cet Elymas, de la même façon qu'il a châtié Paul, au moment où il se mettait aussi en travers de son chemin, il le rend aveugle. Il le plonge dans les ténèbres, et Elymas se retrouve à avoir besoin de quelqu'un pour le guider, de la même façon, la même chose que ce qui est arrivé à Paul. Alors le texte ne nous dit pas ce qui arrive ensuite à cet Elymas, s'il se repent et s'il se tourne vers Dieu. Mais on voit Paul qui identifie d'ailleurs cet Elymas à l'action du malin, à l'action de Satan qui s'oppose à la vérité. C'est Elymas qui manifestement cherche à préserver l'influence qu'il a sur le proconsul. Cette opposition, cette opposition, je pense, a toujours existé dans l'histoire de l'Église, des hommes qui cherchent à utiliser la foi comme un instrument de pouvoir, d'influence pour eux-mêmes. Et le fait que cette démarche d'utiliser le désir des hommes de se tourner vers Dieu, de l'utiliser à leur propre fin, cette démarche-là est associée à l'action du diable. Quelque chose d'intéressant, c'est de voir aussi les conséquences de cette action de Dieu, qui se manifeste donc par un prodige. C'est que le texte nous dit Le proconsul, en voyant ce qui s'était passé, crut. Et le texte nous dit, le proconsul crut parce qu'il avait été vivement impressionné par l'enseignement. Donc on voit bien la place du miracle dans ce processus. Le miracle vient confirmer la valeur de l'enseignement qui a été apporté. Ce qui fait croire, c'est la parole qui a été donnée. Je pense que ça aussi, c'est important à souligner pour que nous-mêmes nous prenions conscience de la façon dont Dieu agit dans les cœurs. La deuxième partie du voyage, donc après avoir quitté Chypre, Saul qui devient Paul, Barnabas et Saul qui devient Paul et Barnabas. À partir de ce moment-là, c'est Paul qui va devenir celui qui est cité le premier, où on voit en fait la façon dont la dynamique entre eux se met en place, où Barnabas, qui a été peut-être pas un père spirituel pour Paul, mais en tout cas quelqu'un qui l'a aidé et qui a été là pour lui au début de sa foi, Barnabas accepte de se mettre au deuxième plan et de laisser à Paul la responsabilité de conduire et de diriger ce voyage. Donc on a vu hein, ce Barnabas, cet homme qui encourage, qui est bienveillant et qui sait aussi se mettre au deuxième plan et servir. Donc ils arrivent à Antioche de Pisidie, donc un autre Antioche, mais qui contient aussi des synagogues, et ils suivent le même schéma que ce qui a été fait depuis le début de l'annonce de l'Évangile, ils commencent par l'annoncer dans les synagogues aux Juifs. Aux Juifs, et le texte nous dit aux craignants Dieu qui sont là, donc les prosélytes, ceux qui se sont approchés de la foi, mais qui ne sont pas juifs d'origine. Et Paul donc va faire comme Pierre et Étienne avant lui, tracer une histoire du salut, un plan de la façon dont Dieu intervient dans l'histoire et apporte le salut aux hommes, et il donne la bonne nouvelle en la résumant d'une façon qu'on connaît bien. Le pardon des péchés vous est annoncé. Donc c'est par Jésus que tout homme qui croit est acquitté de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être acquitté par la loi de Moïse. Et cette annonce-là va impacter d'une façon incroyable ceux qui l'entendent. Alors pas tous ceux qui l'entendent, mais en tout cas une partie va aller voir Paul et Barnabas pour parler avec eux, et le texte nous dit Paul et Barnabas vont les encourager dans la grâce, les encourager à rester attachés à la grâce, grâce qui vient de leur être apportée. La deuxième réaction, elle va arriver une semaine après. Le texte nous dit Une foule s'assembla. Donc, le texte nous dit même, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole du Seigneur. Presque toute la ville. En lisant ce verset, j'ai été vraiment... je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui déplacer une ville? Comment on pourrait imaginer que deux personnes inconnues arrivent quelque part, commencent à parler, et une semaine après, toute la ville se déplace pour les écouter? Le texte va nous dire que parmi tout cela, ceux qui étaient destinés à croire, croient. Mais malgré tout, toute la ville se déplace. Est-ce que tu pourrais montrer la vidéo que j'ai enregistrée? C'est un... Peut-être, alors on ne voit pas très bien, hein, je suis désolé. À déplacer des foules. Maintenant, vous voyez. Là, voilà, la population de presque toute la ville de Grasse a pu se rassembler pour chanter Nice la Belle et fêter la victoire de son équipe. La société de Paul et la nôtre est évidemment très très différente. Et donc, comme je disais, je me demandais qu'est-ce qui pourrait bien impacter autant des gens de notre époque. Et hier matin, j'écoutais à la radio un militant. Je ne sais pas d'ailleurs de quel mouvement exactement, mais qui expliquait la difficulté à faire passer un message dans notre société, et il a dit un truc qui m'a marqué. Il a dit notre imaginaire est saturé. Notre imaginaire est saturé par les images, par les messages qu'on entend constamment, et lui parlait du message de la toute-puissance de la technologie, du progrès. Et c'est vrai que nous sommes, notre attention est en permanence sollicitée, nous sommes divertis en permanence, et même plus que divertis, effectivement, je pense qu'il a raison sur ce point-là, notre imaginaire, la façon dont nous projetons dans l'avenir, dont nous imaginons ce qui pourrait être bon et bien, notre société nous inculque, nous pousse à croire qu'effectivement le progrès va résoudre tous nos soucis. C'est intéressant de se rendre compte que cette histoire du progrès a suivi différentes phases, hein. Donc ça a commencé avec les Lumières, hein, et tout le 19e avec la croissance industrielle. Ça a connu un frein après la guerre de 14, Parce qu'à la guerre de 14, les gens se sont rendus compte, avec la guerre industrielle et les millions de morts qu'elle a créées, que le progrès n'était pas si merveilleux que ça, et qu'il fallait aussi s'en méfier. Et bon, on a connu le 20e, hein, et toutes les horreurs qui sont allées avec, mais en même temps, avec cette croissance à tous les niveaux, hein, de la médecine, de l'industrie, et on arrive maintenant à une autre révolution, d'accord, hein, je pense que bon, tout le monde en a bien conscience, hein, de cette révolution du numérique qui envahit nos vies et qui nous promet plein de choses, qui nous promet peut-être un monde sans frontières, un Babel qui recommence, hein. Vous vous rendez compte que maintenant, avec n'importe quel smartphone, on peut traduire n'importe quelle langue à la volée. Bientôt, on pourra se comprendre à nouveau, tous, instantanément, en écoutant parler quelqu'un, une intelligence artificielle nous pourra nous traduire ça. On en est vraiment pas loin. Il y a plein de nouvelles technologies qui sont en train de converger. Hein, vous avez entendu parler des intelligences artificielles. Là, dernièrement, une IA a réussi à battre le meilleur joueur de Go du monde. Hein, ça a été une révolution dans le monde de l'intelligence artificielle. On commence à avoir des assistants. Maintenant, moi, probablement comme vous, je parle à mon smartphone pour lui poser des questions et il répond aux questions que je lui pose. Les biotechnologies, les interfaces entre le cerveau et la machine, toutes ces technologies-là sont en train de se mettre en place. Les partisans de ce mouvement-là nous promettent un monde sans maladie, bientôt un monde sans mort. Il y a des craintes aussi qui viennent avec ça, parce que avec cette révolution, les gens commencent à se rendre compte que bientôt l'humain sera superflu, parce que les machines pourront tout faire à notre place. Et justement, et ces intelligences artificielles bientôt seront plus intelligentes que nous. Et pour beaucoup, on va se retrouver sans utilité dans notre société. Mais notre imaginaire est baigné là-dedans, surtout dans notre société occidentale et hyper connectée. Notre imaginaire est saturé par tout cela, et il y a une bataille pour notre attention. Il y a quelques années, je pense que c'était le PDG de TF1 qui avait dit « Moi, je vends du temps de cerveau disponible ». Aux annonceurs, hein, à ceux qui venaient faire de la publicité, ils vendent du temps de cerveau. Et c'est ça qui se passe maintenant à une échelle encore plus grande, où la communication de masse commence à disparaître et où maintenant chaque communication devient ciblée. Google connaît tout de votre vie et peut vous proposer les publicités qui vous concernent, qui vous intéressent, et donc on vend. C'est toujours la même chose. On vend de l'attention, on vend du temps de cerveau, mais non plus de façon globale, mais de façon individualisée, en fonction des intérêts de chacun. Alors, quelle est comment est-ce que le message, cette bonne nouvelle que Paul donne dans cette ville d'Antioche, et qui fait se déplacer la ville entière pour l'écouter, qui remplit de joie les non-juifs, qui se rendent compte que cette libération du péché leur est donnée, qu'il est rempli de joie et qu'il est Et le texte nous dit, les nouveaux disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Comment est-ce que ce message-là peut être apporté dans notre société actuellement où nous sommes tellement remplis d'informations et de rêves. Comme je l'ai dit, pour moi, dans ce passage, ce qui marque, c'est la façon dont l'esprit agit. L'homme veut toujours être libéré. C'est une constante dans l'histoire de l'humanité, je pense. L'homme veut être libéré. Libéré de ses chaînes. Libéré de ce qui le maintient captif. Et c'est vrai que notre société rejette l'idée de péché. Je pense que si maintenant on dit à quelqu'un que qui peut être libéré du péché, je pense pas que la plupart des gens vont comprendre de quoi il s'agit. Parce que s'il faut être en paix avec quelqu'un, la plupart des gens pensent qu'il vaut mieux être en paix avec soi-même. Et que le premier objectif, il est d'abord là, d'être en paix avec soi-même. Plutôt que d'être en paix avec Dieu. Pourtant, la parole de Dieu a toujours quelque chose à dire à nos contemporains. Et ce qui les arrête toujours, eh bien, c'est la mort. La mort reste indépassable pour le moment. Et nous avons besoin de pouvoir aller vers nos contemporains pour leur parler, là aussi, maintenant, individuellement. Peut-être que la communication de masse est en train de disparaître et qu'on va revenir aux fondamentaux qui sont de rencontrer des gens et de leur parler et de répondre à leurs questions et à leurs interrogations face à la souffrance qu'ils peuvent rencontrer parce que notre société répond pas à la souffrance. Elle nous promet peut-être d'y échapper, mais une fois qu'on l'a rencontrée, eh bien, elle nous dit pas comment y faire face. Cette semaine, hier, je parlais avec des amis qui revenaient d'un enterrement du fils d'un de leurs amis, qui est mort dans un accident de moto. Et, qui nous posait des questions à Sandrine et à moi sur pourquoi ça peut ce genre de choses peut arriver et qu'est-ce qu'on peut en dire. Et bien sûr, j'avais pas de réponse toute faite, mais en discutant un peu, je me suis rendu compte que ils étaient des personnes qui sont plutôt athées, et je me suis rendu compte que ils arrivaient à accepter l'idée d'un Dieu, mais pas d'un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui n'est pas responsable de la mort des gens, qui arrive qui peut faire du bien à certaines personnes, mais qui reste accessoire. Et donc, j'ai pu lui témoigner le fait que maintenant, moi, je croyais que Dieu était tout-puissant et que ma vie et ma mort étaient entre ses mains, et que ce Dieu était un Dieu d'amour qui voulait être en relation avec moi, mais que ce Dieu-là tenait toute chose entre ses mains. Et quand je lui dis ça, il m'a dit « Mais ça, je peux pas accepter !» Je ne peux pas accepter quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que. Alors, on a lu un passage dans l'Ancien Testament qui parle de la mort d'un enfant. Je ne sais pas qu'est-ce qui va ressortir de ça, mais je crois qu'il vaut quand même mieux quelqu'un qui est choqué par Dieu que quelqu'un qui pense que Dieu est accessoire et inoffensif. Donc, on a besoin de pouvoir répondre aux questions que nos amis et que ceux qui sont autour de nous se posent, de leur répondre à leur niveau. Et pour terminer, on a vu dans ce passage des hommes qui étaient en prière, qui étaient disponibles pour entendre ce que Dieu avait à leur dire. Et je pense que c'est vrai, d'abord pour nous-mêmes, nous devons aussi apprendre à libérer du temps de cerveau disponible, du temps d'attention, pour pouvoir entendre ce que, là où Dieu nous envoie. On doit aussi, je pense, travailler sur notre imaginaire, la façon dont nous projetons vers l'avenir, dont nous imaginons un monde meilleur, parce que notre société nous pousse dans une direction qui n'est pas celle de Dieu. Et celui qui nous pousse dans cette direction-là, Paul l'avait déjà identifié dans ce passage-là. L'action de Satan est toujours d'empêcher la vérité d'être reçue. À l'époque de Paul et de ce Élimas, il essayait de convaincre le proconsul de pas écouter la vérité. Je pense que de nos jours, l'action de Satan consiste probablement plutôt à nous submerger d'informations inutiles et de rêves illusoires. On doit travailler, et je le dis d'abord pour moi, évidemment. On va travailler sur la façon dont nous imaginons ce qui est bon et ce qui est bien et ce qui est devant nous et ce que Dieu nous promet. Cette libération que Dieu nous promet, cette libération du péché et de la mort. On doit travailler sur notre propre façon de percevoir le monde pour ensuite pouvoir répondre aux interrogations de ceux qui sont autour de nous et qui sont perdus dans le brouillard que notre monde propage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse.